Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast numéro 18, le podcast 17 étant le podcast fantôme, puisqu'on est en fantasy, on fait ce qu'on veut, et donc on a un podcast fantôme. Aujourd'hui sont présents avec nous Gilles Hossen, bonjour.
Bonjour.
Akel Abbès, bonjour.
Salut.
Mervyn Tonnel, que nous n'avions pas vu depuis si longtemps, j'espère que ses fans en délire sont contents, bonjour.
Bonjour à tous.
Un fan en délire donc, bravo.
Un petit bonjour spécial à Steven, je sais que tu nous écoutes.
Mais on y reviendra, on y reviendra. Et puis un invité mystère que je ne vous présente pas encore, mais qui ne dit pas bonjour. Donc. On va commencer par nos actualités. Alors évidemment, Giggs n'est pas là, mais je sais qu'il est tout cœur dans vos esprits. Mais sinon, je l'aurais présenté, c'est ça que je veux dire. Alors, dans l'actualité, Gilo, un petit retour sur la saison 2 de Game of Thrones.
Oui, bah, qui s'est achevé donc dimanche dernier, hein, alors on enregistre bien sûr, sur une très belle performance d'audience, puisque le dernier épisode a battu tous les records de la première comme de la deuxième saison, donc avec un peu plus de 4 millions de téléspectateurs devant leur petit écran au moment de la diffusion. Et tout est lancé, tout est en place pour que la saison 3 soit la saison de tous les succès une fois de plus, donc de ce côté-là, pas de surprise, c'est une grande réussite.
Et c'est mérité, parce que j'ai trouvé que la saison 2 était encore plus solide que la première saison.
Moi, j'ai préféré la première, mais bon.
Ouais, mais t'as des mauvais goûts.
Bah, moi qui n'ai pas lu les livres, je le rappelle, enfin, à part le premier, je trouve que ça continue à m'intéresser, pas à me donner envie de lire, mais à m'intéresser tout autant sur l'histoire, voire plus. On peut faire un petit retour sur les imaginales, si vous le voulez bien. Enfin, de toute façon, vous n'avez pas le choix. je vais vous en parler quand même. C'était une très très belle édition avec des invités étrangers qui ont été très présents sur les différentes conférences. Des petits déjeuners dont on se souviendra à El Bakin, parce qu'on était assez nombreux sur celui de Mercedes Lackey et aussi présents avec ActuSF sur celui de David Anthony Durham. Et puis, pour ma part, quelques conférences animées, mais ça, il y en a certains qui le savent déjà. Et puis, voilà, un excellent endroit pour rencontrer les auteurs, rencontrer les dessinateurs, enfin, vraiment, les illustrateurs, pardon. C'est vraiment un endroit où il est facile d'être en contact avec les personnes dont on apprécie les écrits et les dessins. Et moi, je vous conseille tous, si vous n'avez jamais fait ce festival, d'y aller au moins une fois. C'est vraiment le moment de rencontre important pour la fantasy en France. Voilà, on peut dire un mot sur une autre rencontre importante, surtout pour Mervyn. il y avait ces jours-ci un colloque Antiquité et Monde de l'Imaginaire. Le titre exact, Mervyn ?
Alors, le titre exact, je pourrais pas le dire parce que c'est un peu universitaire. Donc, c'est en fait les rapports entre la science-fiction, la fantasy et le fantastique dans la littérature moderne et l'Antiquité gréco-romaine. Donc c'était le jeudi dernier à Rouen et puis là vendredi et samedi sur Paris.
À la Sorbonne,
c'est ça. Et dans les auteurs étrangers invités, il y avait Jasper Ford et puis un autre Steven Erickson. Bon, je connais pas trop, mais
je sais.
Il paraît qu'il est sympa. Et donc c'était une journée, faut aimer tout ce qui est colloque universitaire parce que c'est vraiment une approche très universitaire de la fantasy. Mais il y avait des choses très intéressantes qui ont été dites, et puis notamment j'ai pu rencontrer Steven Erickson.
Il a encore les yeux
tout
emplis d'étoiles.
C'était vraiment une très belle rencontre parce que c'était quelqu'un de très accessible, qui a beaucoup discuté avec nous, très sympa, et puis on a une petite interview dans les bagages qu'on vous sortira dès qu'on peut.
Oui, Gilo ?
Puis lui, ça a dû être émouvant pour lui, puisqu'il a quand même découvert le seul lecteur français à avoir lu tous ses romans.
Ça, c'est de la mauvaise langue, parce qu'il y en avait quelques-uns dans la salle, donc une salle d'ailleurs assez remplie, qui avait lu l'intégralité du cycle. Mais on n'était pas énormément de personnes, mais il y en avait.
D'ailleurs, bon, pour ce qui est des imaginales et de ce colloque, surveillez les annonces d'interview sur le site, parce qu'on en a quelques-uns en réserve à vous proposer. Le journal de bord de Bilbo, Gilo, on est au numéro 7.
Eh oui, 7 déjà. Bon, là, ça faisait quand même quelques semaines, voire quelques mois, qu'on n'avait plus de nouvelles. Donc, c'est jamais très intéressant quand on essaie de suivre l'actualité de près. Et puis là, finalement, presque un quart d'heure de vidéo. Donc, on peut découvrir Mirkwood et tout. Plus un invité surprise à toute fin du journal de bord, qui devrait faire une apparition qui devrait faire plaisir à toutes les fans qui avaient adoré Le Seigneur des Anneaux pour un certain elfe à la perruque blonde.
Ne regarde pas, moi je suis Tim Aragorn, hein, je suis désolé.
Il vaut pas notre invité mystère par contre.
Hein. Ouais, c'est vrai, niveau perruque blonde. Enfin voilà, c'est à voir parce que c'est toujours aussi sympa et puis ça permet de patienter vu que mine de rien, bah, la sortie approche. Hein, donc,
Mais je suis surpris qu'il y ait aussi peu de. Enfin, que le plan marketing soit pas encore vraiment en marche.
Bah pour l'instant ça me surprend aussi beaucoup, moi je me rappelle à l'époque, hein, j'étais déjà là, et c'était un peu la folie quoi, il y avait des trucs d'espionnage, des photos volées, tout ça, c'était des reportages tous les mois sur le tournage, il y avait vraiment... Alors que j'ai l'impression que la communication est beaucoup plus cloisonnée maintenant, que c'est devenu un peu une institution quoi, donc...
On a très peu de photos officielles, on a juste un trailer pour le moment.
Je pense qu'ils vont attendre la vague de tous les films comics de cet été, donc les Batman et tout ça, donc...
Il y a un crossover Batman-Bilbo, je comprends rien.
Non mais je pense que la Warner attend d'avoir fini avec Batman, qui va occuper tout leur été pour lancer la machine Bilbo à grande échelle quoi.
C'est ça, après Alien contre Predator, c'est Batman contre Bilbo.
Bon, amis gamers, sortez de votre caverne, l'été est bientôt là. Je sais que vous avez tous fini Diablo 3, il me semblait important d'en parler parce que c'est... nous, il n'y a pas de joueurs ici de Diablo 3, mais...
Non, on a une vie.
Mais je...
c'est
moche.
Ah, bonjour, maintenant on va se taper une attaque sur le site. C'est...
Erreur 37 sur albekin.net.
C'est Al qui va criser, ah, bah, bravo.
Bon, c'en est tout pour l'actualité. Abordons donc le débat.
Those books, how much? Those books, leather-bound ones.
Yes, Dickens, the collected works of Charles Dickens.
They're real leather?
They're real Dickens.
I have to know if they're real leather, because they have to go with a sofa. Everything else in my house is real. Give you 200 for them.
200 what?
200 pounds.
Are they leather-bound pounds?
No.
Sorry, I need leather-bound pounds to go with my wallet. Next!
Nous vous avions proposé il y a quelque temps sur la page d'accueil du site un sondage concernant vos habitudes de lecture, de lecteur et notamment le volume de vos achats en littérature fantasy. L'avenir de la fantasy étant un sujet qui nous passionne tout autant que son contenu, ce mois-ci nous allons discuter de la situation du marché et des librairies. Il est bien évident que le sujet dépasse largement les limites de la littérature de l'imaginaire et que le marché du livre en France ne tourne pas autour du genre de la fantasy. On regrette, hein, nous tous, mais c'est comme ça. Sans s'apesantir donc sur une analyse générale, nous allons essayer de parler des spécificités en la matière, si elles existent. Pour ne pas évoquer ce sujet sans renseignements de première main, nous avons donc aujourd'hui un invité que vous connaissez forcément si vous lisez les chroniques du CID et si vous fréquentez le forum, puisqu'il s'agit de Zed. Non, je plaisante, sa renommée va au-delà d'Elbakin.net, puisque sa librairie et la maison d'édition qui en est issue sont un bel exemple de réussite dans le milieu, et du coup presque un phénomène. Simon Pinel, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que, d'abord, messieurs, vous pouvez lui souhaiter la bienvenue.
Bonjour.
Salut.
Est-ce que être responsable de la librairie critique à Rennes, de la maison d'édition du même nom, et être à ses heures perdues membre du jury du prix Elbakin.net dans la section adulte, oui, parce que Simon est un adulte, est-ce que tu te sens un phénomène ou est-ce qu'on peut encore te parler normalement?
Non. non, je me sens pas du tout un phénomène. Et puis, c'est juste que moi, j'ai commencé sur Elbakin, je crois que c'était en 2004, quelque chose comme ça. Et puis, ça montre qu'on peut. Enfin, la passion peut pousser toujours plus loin, d'abord à devenir libraire, puis à devenir éditeur. Donc, c'est vrai que c'est plutôt cool.
Bien. Eh bien, bienvenue, Z. Alors, on va continuer sur Z. Quels sont les différents acteurs de l'édition en France, de l'édition fantasy? Est-ce qu'on peut commencer par un bref descriptif du fonctionnement de la chaîne du livre?
On va partir déjà de l'auteur, forcément, qui est donc le premier à fournir le texte. Après, on va retrouver les maisons d'édition. Et puis, il y a ceux qui s'occupent aussi de la promotion et de la distribution en librairie, ce qu'on appelle les diffuseurs-distributeurs. Après, enfin, il y a le libraire et le lecteur. Donc voilà, c'est une chaîne qui est assez simple.
Est-ce qu'il y a une spécificité pour le monde de la fantasy ou ça fonctionne exactement de la même façon que pour le reste de l'édition en France ?
Non, pas de spécificité à noter. C'est vrai que je pense qu'on est encore... Enfin, il n'y a pas de diffuseur-distributeur qui serait spécialisé en fantasy, comme ça peut être le cas dans d'autres secteurs. Donc non, pour l'instant, on n'est malheureusement pas encore un acteur assez important pour avoir des spécificités, je pense.
Merci. Et du côté des éditeurs, comment, en tant qu'éditeur, on peut se prémunir de ce qui, pour tous, est de façon évidente la crise du livre ? Gilles-Ossène, une idée ?
Ouais, ça m'arrive. Et donc, je pense que la stratégie la plus simple, en tout cas en apparence, c'est d'augmenter le nombre de parutions. Parce qu'on a vu que Bragelonne a longtemps cherché à s'étendre de plus en plus sur le marché. Bah, continue de le faire avec Milady et Milady Romance, là tout récemment, bah, pour le coup qui quitte un peu la sphère de l'imaginaire. On a vu aussi Eclipse qui était parti sur le même format lorsqu'ils ont débarqué, donc en envahissant les rayons avec... tout de suite 3, 4, 5 parutions par mois, alors que c'était un éditeur tout jeune. Donc je pense que occuper les rayons et donc être bien visible des lecteurs, bah, c'est aussi une façon de ne pas être oublié de ceci quand les moyens se...
Oh, oui, Mervyn ?
Tu cites Eclipse, mais c'est assez marrant, puisque justement c'est peut-être aussi le fait qu'ils aient autant publié dès leur premier mois qui leur ont coûté cher. Est-ce que c'est une bonne solution si on se fie à cet exemple-là ?
Simon ?
Ouais, moi je pense qu'en ce moment, c'est pas la bonne solution. Le marché est vraiment trop morose pour... Il y a une surproduction qui est déjà évidente, et surproduire aujourd'hui, enfin produire toujours plus, n'est pas la bonne solution, je pense qu'on a vu avec Eclipse. Et je pense que ça a été à un moment la solution de Bragelonne, mais en l'état des choses, actuellement, je pense qu'ils font plus ça. On peut remarquer que les parutions chez Bragelonne et Milady, elles sont un peu resserrées pour la première fois quand même depuis des années, je pense que c'est assez notable. Et qu'au contraire, c'est plutôt vers la diversification qu'ils vont, notamment en ouvrant la collection romance, en ouvrant une collection comics, ou de la fantasy de la SF, mais sous la forme de jeux vidéo. Donc vraiment, on essaye de toucher le plus de public possible. Je pense que c'est vraiment la diversification qui, chez les éditeurs et la solution, l'a choisie. Et notamment en BD aussi, en ce moment, donc il y avait une surproduction qui était vraiment énorme. Et pour la première fois depuis des années, notamment chez Glénat, par exemple, ils ont baissé le nombre de parutions. Donc les éditeurs, les premiers, sont en train de se rendre compte que ça va les tuer et qu'ils sont en train de se tirer une balle dans le pied.
Oui, c'était un peu la spécificité de la BD, c'était cette surproduction.
5000 titres par an, c'est juste hallucinant, c'est impossible.
Oui, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas.
Voilà. 5000 titres, ouais, ça
fait. Eh ben, on n'arrive pas à tous les chroniquer, hein, c'est bizarre.
Bon courage aux collectionneurs hein, qui veulent acheter 5000 BD par an.
Bon, du côté...
Ouais, oui. Sinon, il y avait une autre solution aussi, je pense que c'est le retour aux Français. On est en train d'assister chez beaucoup d'éditeurs au retour aux auteurs français, parce qu'il y a... une traduction coûte très cher et notamment il y a des frais engagés qui sont très importants, c'est-à-dire que les points morts sont assez loin et aujourd'hui notamment Bragelonne qui a rouvert sa section aux manuscrits français et il y a beaucoup d'éditeurs, notamment La Talente et d'autres comme ça qui reviennent aux auteurs français, donc c'est vrai que je pense que c'est une solution aussi, c'est d'essayer de baisser les coûts et d'avoir des points morts qui sont plus faibles pour essayer...
Tu peux nous définir ce qu'est un point mort ?
Un point mort, c'est le moment, où le livre devient rentable, en fait. Et sur une traduction, le point mort est assez élevé, peut être à partir de 3000 ou 5000 exemplaires en fonction de la publicité ou du traducteur qui a été engagé. Tandis que...
Oui, arrêtons de taper sur les traducteurs.
Non, non, mais...
C'est votre faute. si tout le marché va mal.
Non, non, on est payé trop cher, c'est sûr.
Non, non, mais c'est tous
ce que je viens de dire.
C'est tous les agents littéraires, je pense qu'on fait monter les prix à un moment, et c'est vrai que les droits sont devenus très chers, donc je pense qu'on assiste à un retour aux Français, et je pense que c'est une bonne chose aussi.
Parce qu'en français, il y a moins d'agents qui interviennent où la négociation des droits se fait directement entre l'auteur et son éditeur.
Il y a moins de traducteurs en tout cas.
il y a moins de traducteurs.
Bon, ah, peut-être que pour certains, ça serait nécessaire.
On ne citera pas de nom. Non, mais il n'y a pas souvent, la relation est directe entre l'auteur et l'éditeur. Et comme il n'y a pas de frais au niveau de la traduction, c'est vrai que les points morts sont deux à trois fois plus, enfin, atteints plus vite. Et donc. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bien et puis qui sert quelque part notre littérature nationale.
Oui, Gilo.
Donc, tu penses qu'un livre en français, par exemple, à 1000 exemplaires, il peut être rentable pour l'éditeur ?
Ouais, il peut être rentable, tout à fait. Ouais. Surtout qu'en ce moment, ils essayent de. Tout à l'heure, j'ai pas parlé d'un chaîne de livres, mais aussi l'imprimeur. On essaye un peu de plus en plus d'aller voir ailleurs pour essayer de baisser le coût des livres. Et c'est vrai qu'on essaye dans un marché de niche comme le nôtre, d'avoir des points morts de plus en plus faibles parce qu'il y a le lectorat qui ne grandit pas et le nombre de parutions qui augmente. Donc,
Je vous rappelle qu'on n'a pas juste un invité avec Simon, on a deux invités, le libraire et l'éditeur. Bon, alors, oui, Mervyn ?
Et d'ailleurs, puisque tu parles d'éditeur, est-ce que toi, en tant que petit éditeur, tu te sens plus exposé ou moins exposé à cette crise du livre ? Est-ce que c'est en ayant une petite structure, t'es plus protégé ou justement pas du tout ?
Enfin, sincèrement, je sais pas, parce que comme j'ai pas été, jamais été dans une grosse structure, je sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que ce soit en librairie ou en édition, les petites structures peuvent s'adapter plus facilement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse machine derrière et que quelque part, on peut s'adapter plus facilement à un marché. Mais je pense qu'il y a de la casse en ce moment et que chez les petits, ils peuvent pas éponger des dettes ou des difficultés aussi longtemps que des grands. Donc je pense qu'il y a plus de casse chez les petits, mais il va aussi probablement en avoir chez les grands, notamment enfin, en librairie, pas en édition, mais la Fnac qui revient vers l'électroménager. On assiste quand même à pas mal de choses qui montrent que c'est vraiment difficile en ce moment.
Aka ?
Et justement, tu penses pas que... Il y a quand même un certain phénomène de mode qu'on voit sur le type de fantasy qu'on voit, en particulier pour ne pas les citer, les histoires de vampires, les machins comme ça. Ça, tu penses que ça a joué aussi dans la superproduction et que c'est le genre de truc que justement ne fait pas avancer la crise ou...
Enfin, sincèrement, je sais pas, parce qu'à un moment, quand la fantasy a commencé à arriver après Le Seigneur des Anneaux en masse, on parlait de surproduction, on parlait de sous-genre aussi, comme par exemple on le fait pour la bitlit. Donc c'est-à-dire qu'il y a un phénomène de mode où on essaye d'installer des genres, d'installer un lectorat. En ce moment, c'est la bitlit qui a le vent en poupe, mais... Enfin, pour moi, le phénomène est déjà en train de s'éteindre. On voit que tous les éditeurs ont lancé leur collection et que déjà, il y a de la casse aussi chez certains. Donc, quelque part... Je sais pas si ça va durer la bitlit et que peut-être on parle déjà du post-apo ou d'un autre genre qui va prendre le succès de la bitlit, donc c'est vraiment cyclique et voilà.
Oui, Gilo ?
Oui, il y a la dystopie aussi qui est très à la mode en
ouais,
ce moment.
Oui, la dystopie,
et
exactement.
Puis, tous les romans young adult, donc pour une cible un peu...
Voilà.
Enfin, ouais. Tous les éditeurs aussi se lancent là-dedans. Quoi, ouais.
Parce que la bitlit, c'était déjà hier, enfin, ouais. C'est vrai. Ouais.
Bon, et du côté des libraires, alors on peut vous indiquer que de notre côté sur elbackin.net, la page librairie qui était un peu en sommeil va certainement renaître de ses cendres tel le phénix grâce à l'aîné qu'on remercie ici et qui, si vous avez envie, d'ailleurs auditeur du monde entier et de France et de Navarre, si vous avez envie de donner le nom de votre libraire fantasy ou spécialisé favori dans votre coin à vous, si on a un, vous n'hésitez pas à venir nous en parler sur le forum ou nous faire un petit mot par nous contacter directement sur le site si vous n'êtes pas inscrit sur le forum. Voilà. Donc, au niveau de ce qui se passe pour les libraires, la situation est en train d'être gérée par elbackin.net. Voilà.
On va résoudre toute la crise.
c'est prévu. Non, mais dans la conquête du monde, c'est déjà un début. Alors, avant de se demander ce que c'est qu'un bon libraire, si on doit se le demander, est-ce qu'on peut savoir, Simon, si tu as une idée sur quelle est la situation de la librairie en France de nos jours ?
J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure avec la Fnac, mais c'est vrai que c'est une situation qui est très précaire, très fragile, qui tient à une seule loi, qui est la loi Lang, avec le prix unique du livre. Et là, il y a eu l'augmentation de la TVA qui a fait énormément de mal aux librairies. C'est-à-dire qu'on considère que la marge d'un libraire, une fois qu'il a payé les frais de transport, qu'il a payé le loyer, elle est inférieure à 1%. Et c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de 1,5 avec la TVA.
Ah, vous gavez, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment... C'était déjà fragile, et là, l'augmentation de la TVA a rendu les choses encore plus fragiles. Donc actuellement, les petites librairies, même les grosses chaînes ont des difficultés. Donc il y a des exemples de réussite, des librairies qui marchent vraiment très bien, des librairies spécialisées ou généralistes, ou même des grands groupes qui marchent très bien. Mais je pense que c'est du cas par cas et que de manière générale, la librairie va très mal. Il y a une baisse de fréquentation qui est évidente, une baisse du panier moyen aussi qui est notable, notamment avec un retour très fort vers le poche et le grand format.
C'était ma question suivante. Est-ce que grand format poche... Quel est le gagnant ?
En ce moment, très largement le poche. C'est-à-dire que Là, sur 2012, par exemple, samedi dernier, donc on a vendu une trentaine de livres. Il y en avait 24 qui étaient du poche. Et là, c'est alors qu'avant, on avait quand même un lectorat poche, un lectorat grand format. Et j'ai des clients qui, jusque-là, achetaient du grand format, qui se mettent quand même à lire du poche davantage. Après, c'est peut-être qu'une mauvaise passe, mais je trouve que la mauvaise passe, quand même, dure pas mal depuis pas mal de temps pour libraire. Et on voit pas mal de librairies fermées, donc c'est assez dommage.
Ce retour vers le poche, c'est dû à quoi, à ton avis? C'est parce que les gens lisent dans les transports plus qu'autre chose, ou c'est juste qu'au final l'objet livre a moins d'attrait?
Ouais, non, je pense sincèrement que c'est, enfin, essentiellement après pour des raisons financières. Après, c'est vrai que le grand format est surtout, enfin, quelque chose qui est acheté par les gens c'est déjà plus aisés, qui ont des salaires, ou alors par ceux qui suivent l'actualité, qui n'ont pas envie d'attendre jusqu'aux poches. Donc il y a vraiment, enfin, il n'y a pas, à un moment on disait que c'était les étudiants qui achetaient du poche ou les gens les moins aisés, c'est pas vrai. Les gros lecteurs, des fois aussi, ils lisent tellement qu'ils achètent que du poche.
Ah, moi, voilà. Personnellement, j'ai toujours plutôt acheté du poche.
Voilà.
Oui, moi pareil, j'achète que La Roue du Temps en grand format.
Donc, ouais, surtout quand on lit en VO, enfin, voilà. c'est moins problématique.
Non, mais là, je pense que la plupart, pour des raisons financières, vraiment, se sont retournés vers le poche parce que c'est quand même une valeur sûre. Ouais, vraiment, le poche, vraiment, en ce moment, c'est de très loin.
Oui, Yaka ?
Alors, ce qui est rigolo, c'est que tu parles de côté financier pour le renouveau du poche, en tout cas la décrépitude du grand format peut-être, mais la BD ça marche quand même, quoi. Au contraire, ça a plutôt augmenté les ventes de BD, pourtant c'est des objets qui sont chers, etc. Ouais. Donc cher et de plus en plus cher. Ouais.
On peut aborder, c'est un sujet qui me parle beaucoup, c'est-à-dire que souvent on dit le livre est cher. Mais quel livre, j'ai envie de dire? Parce que le poche, sincèrement, c'est quelque chose qui est vraiment pas cher. C'est vraiment, pour moi, c'est peut-être l'objet culturel le moins cher qui existe sur le marché. C'est vraiment quelque chose, quand on voit le temps passer dessus, le prix est pas du tout élevé. Pour un grand format, quand on regarde les prix, c'est marrant, qui étaient en francs, par exemple, sur des vieux livres, il a pas tant que ça augmenté. Je crois que l'inflation du livre, elle est deux fois inférieure à l'inflation générale. Par contre, pour le coup, pour la BD est vraiment très chère, c'est presque un objet de luxe maintenant. Je me rappelle, avant, les BD, elles étaient en dessous de 50 francs. Et pour les grandes éditions de chez Dargo, Dupuis, voilà, on arrive à des BD qui maintenant approchent les 15 euros, donc presque les 100 francs pour remettre ça. C'est vraiment très très cher. Et pourquoi la BD marche encore? Parce que je pense que c'est un public qui est plus aisé et aussi, contrairement par exemple à la fantasy, la science-fiction, pour revenir au sujet qui nous intéresse, ça dépasse ses grands publics. Et les tirages sont pas du tout les mêmes. Et c'est par exemple beaucoup plus facile d'essuyer un bide, par exemple, qu'en SF fantasy où ça va être difficile parce qu'il y a des livres qui cartonnent, des BD qui cartonnent et qui dépassent les 10 000 exemplaires, alors qu'en France, pendant la fantasy et la science-fiction, c'est très très difficile.
Est-ce qu'on n'est pas aussi face à un genre de lectorat? Enfin, moi, je pointe pas du doigt le lecteur de BD, j'en suis aussi, mais est-ce qu'on n'est pas face à un genre de lectorat différent? Je sais que chez nous, j'ai quelques noms de personnes qui ont moins de temps pour lire, qui sont au départ des gros lecteurs et des forumers actifs, et puis qui, la vie change, ils ont des enfants, ils se marient, et tout d'un
les
coup... Les pauvres, Mervyn, ça t'arrivera peut-être un jour. Aka lit de plus en plus de BD parce qu'il a une petite fille magnifique. Donc, est-ce qu'on n'est pas face à un lectorat qui se dirige vers la BD parce que moins de temps pour lire, par exemple?
Ouais, tout à fait. Si, en général, nous, on voit, le public. Il y a un public qui lit deux, romans et BD, mais on voit que souvent, par exemple, quand on a du temps pour lire quand on est étudiant, par exemple, ben, on lit beaucoup plus. Moi, le premier, quand j'étais étudiant, je dévorais les livres. Et maintenant, une bande dessinée, c'est 30 minutes maximum de lecture. Donc, c'est vrai que ça va beaucoup plus vite. On a l'impression d'avoir fini un livre en 30 minutes.
Tu lis pas des Black et Mortimer, toi?
Bon, alors, oui, Mervyn.
Juste un truc qui m'a toujours étonné, c'est pourquoi en BD, il n'y a pas, comme avec le grand format et le poche, une version discount, en fait.
Mais il y en a eu.
On y arrive. L'intégrale, petit format, il y a notamment Casterman qui a lancé ça. Déjà, l'intégrale, ça marche un peu en roman, mais enfin pas de façon encore systématique, mais l'intégrale en BD devient quelque chose de vraiment très systématique qui permet de faire vivre le fond. C'est-à-dire que la BD, c'est beaucoup sur la nouveauté. Comme il y a 5000 sorties par an, la nouveauté, c'est ce qui prime d'abord. Et le fond, c'était difficile à faire vivre. Donc il y a eu l'intégrale, et puis maintenant, il y a les intégrales poches aussi qui sont, par exemple, ça va être 3 BD qui vont être réunis en une seule, en petit format, et ça va coûter autour de, je sais pas, 15-20 euros. Donc c'est, ça devient, pour le coup, ça devient abordable, je pense. Ouais.
Oui, Yaka ?
Il y a aussi peut-être le gros succès du manga, c'est ça. C'est qu'au final, un manga, c'est petit, ça coûte aux alentours de 7 euros et ça permet d'avoir accès à une BD qui, en plus, généralement, a plus de pages, donc est plus longue, il y a plus de matériel, quoi. Et pour un prix nettement plus abordable, quoi.
Je pense qu'il y a un tassement. C'est-à-dire que le manga, tout restait à faire depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que c'était un marché qui était en expansion. Mais là, depuis quelques années, il y a un tassement et je vois que c'est plus difficile d'installer
c'est
des
normal,
séries.
C'est écrit tout à l'envers. Hein.
On ne comprend rien.
On comprend rien.
En plus, il n'y a même pas de couleur.
Oui, Gilo.
Non, mais dans le manga aussi, justement, il y a eu une surproduction assez énorme avec des éditeurs qui ont lancé des séries. Enfin, déjà, beaucoup d'éditeurs qui se sont lancés, beaucoup qui se sont cassés la gueule ou qui ont arrêté des séries en vol, ou qui préviennent même pas quand ils arrêtent leur série, comme Panini. Je cite complètement au hasard. Attention. Par contre, tu disais que le manga, t'avais l'impression de dire que ça durait plus longtemps qu'une BD. Bon, ça dépend lesquels, hein, parce qu'un Naruto...
Je te l'accorde.
Je crois que tu le parcours assez vite quand même. Faudra demander à Geeks, mais il regarde que les images, lui.
Alors du point de vue du libraire, justement, est-ce qu'il y a un problème au niveau de la place? Il y a deux choses qui sont importantes pour un libraire, c'est le stockage et le rayonnage. Est-ce que tu veux nous en parler et nous expliquer à quel point ça peut créer quelques difficultés?
Ouais, donc la surproduction chez les libraires, de manière concrète, c'est le problème de place. C'est-à-dire, par exemple, nous, sur les 5000 sorties BD que j'évoquais tout à l'heure, on les prend plus toutes, on peut plus. Vraiment, c'est plus possible, on peut même plus tout lire. Il faut qu'on fasse des choix. Donc, c'est-à-dire que quand notre représentant vient dans notre magasin pour présenter les nouveautés, on va faire une sélection déjà qui est beaucoup plus grande qu'avant. On fait un filtre qui est beaucoup plus important. Et donc, on va prendre des sorties qui, on pense, vont nous intéresser le lectorat qui vient chez nous. Donc, oui, il y a un problème de place qui est évident. Les murs, au bout d'un moment, on a atteint un stade où on peut plus les pousser.
Vous n'avez pas des librairies à la Schuitaine
qui
s'ouvrent sur des montes?
Ce serait absolument génial, mais c'est pas du tout le cas. Et oui, en ce moment, la place, c'est vraiment un grand problème. Et puis, pour les rayons, là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, notamment, c'est au niveau des genres. Par exemple, au niveau de la science-fiction, la fantasy, moins pour l'instant, mais il y a pas mal de livres de science-fiction qui paraissent dans les collections de littérature générale. Alors, des fois, il y a des livres qui nous passent totalement à côté parce qu'ils sont passés dans les collections de littérature générale, parce que les collections s'adressent à des rayons à chaque fois. Et nous, on va s'intéresser aux collections qui vont dans nos rayons fantasy SF, mais il y a des livres qui paraissent dans d'autres collections qui ne sont pas pour nos rayons. Donc, pareil, ça devient assez difficile. Et puis au niveau du rayonnage, il y a le mélange des genres. Alors est-ce que ce livre, il est plutôt SF, plutôt fantasy? Alors là, c'est juste un casse-tête.
La Horde, c'est fantasy. Hein.
c'est classé où
Alors du contrevent? Non, nous, déjà, on a arrêté...
En best-of.
Ouais, nous, c'est vraiment les coups de cœur. C'est-à-dire qu'on a un système particulier, c'est qu'il y a des livres qui sont donc en facing, c'est-à-dire mis en avant, depuis 5 ans peut-être, de manière non-stop. C'est-à-dire que vraiment, on met nos coups de cœur en avant, il y a des nouveautés qui vont directement au rayon. On les présente plus de manière systématique parce que ça nous plaît pas ou on n'a pas envie de parler de ça. Et maintenant, on va présenter vraiment les coups de cœur. Vraiment, les coups de cœur, c'est... Donc, on a un peu arrêté. Pareil, il n'y a plus de rayon science-fiction fantasy. C'est un bordel sans nom avec j'ai aimé le livre de l'année. Voilà, des commentaires dithyrambiques pour essayer d'attirer l'attention des lecteurs.
J'ai vu récemment une discussion sur une page Facebook de la librairie L'Entremonde qui est ouverte il y a plus d'un an maintenant à Paris et où elle expliquait son classement rayon. Et il y a quelqu'un qui disait: ah ben non, ça tu peux pas le mettre dans le rayon, je sais plus le nom du rayon, mais parce que c'est young adult. Young adult, c'est vraiment trop nul. Et là, au secours, les étiquettes, voilà. Ouais, c'est sûr que pour un libraire, ça doit être un moment de casse-tête assez difficile. Aka ?
J'en reviens à ce que tu disais sur le choix que tu es obligé de faire, du coup, en particulier pour, euh, pour les BD ou pour même pour les romans d'un point de vue général, j'imagine qu'il y a moins quand même moins de romans, t'as moins de choix à faire dedans. Mais comment, quoi, t'as des critères comme ça, tu pars de... Ah, moi je sais que quand je vais regarder, j'ai envie d'acheter une nouvelle BD, le dessin va compter pour beaucoup. Et ensuite, il y a quelques auteurs que je connais, que je vais aller chercher. Ensuite, je ne rachète pas... Ouais, je rachète pas ne serait-ce que 1000 BD par an, donc déjà si j'en achetais 10, ce serait pas mal.
Alors déjà, il y a les représentants qui nous présentent pas tout parce qu'ils savent que certains titres vont pas nous intéresser et qu'ils vont, enfin voilà, ils ont une tournée à faire et ils vont pas nous le présenter, ils savent que ce serait une perte de temps. Ensuite, on va déjà prendre ce qu'on connaît, c'est-à-dire que si on connaît, par exemple, il y aura le dernier, là je vois par contre Prugne, mais voilà, c'est la dernière BD de Prugne, on va la prendre en quantité parce qu'on sait qui c'est, on sait ce qu'il fait, et voilà. Après, ensuite, pour les nouveaux auteurs ou nouvelles séries, on va, c'est selon l'humeur du moment, non, c'est plutôt selon, on a une présentation, des extraits, voilà, qui vont nous être présentés, et puis on va choisir ça. Et puis des fois on se plante, on commande des BD en grande quantité alors qu'on finit par la lire et que c'était juste très mauvais. Et puis voilà, on se plante nous aussi. Hein, et,
grosse erreur.
Et puis des fois on passe à côté de titres. Par exemple, il y a une série qui s'appelle Le Grand Siècle chez Delcourt. Je l'ai découvert au tome 2. Le tome 1 était passé totalement, j'étais passé totalement à côté alors que c'était absolument génial. Donc voilà, il y a forcément des choses qu'on passe à, on passe à côté de choses, mais on est obligé, pour bien présenter les BD, de ne pas tout prendre et de voilà.
Et pour le coup, la maison d'édition, ça joue aussi dans le choix ?
Pas vraiment. On essaye de cloisonner les deux, mais moi, je trouve que c'est pour l'instant mon expérience de libraire qui nourrit mon métier d'éditeur pour le moment, surtout plus que l'inverse, vraiment.
D'accord.
Et pour continuer à parler des librairies, est-ce que la spécialisation, c'est une chose qui mène quelque part ? Est-ce que c'est un choix important ? Ou est-ce qu'on peut continuer à être un libraire généraliste ? Qu'est-ce qui t'amène, toi, à cette optique de choisir de faire une librairie spécialisée ou pas, d'ailleurs ? Puisque j'ai jamais été à Critique.
C'est mal.
Je ne vais pas souvent à Rennes, je suis une parisienne snobinarde, donc...
Non, enfin, de toute façon, le choix était déjà fait quand je suis arrivé, parce que la librairie existe depuis 12 ans, et j'y suis, je sais plus, peut-être depuis 5 ans, j'ai eu des stages avant, avant d'être embauché. Donc le choix était déjà fait, donc j'ai pas eu à faire ce choix, mais la spécialisation, on parlait, c'est quelque chose qui vient, je pense, de plus en plus naturellement, parce qu'il y a de plus en plus de rayons, et il faut être compétent dans son rayon, et on peut plus tout faire. Pareil, là, c'est une question de choix, une question de place, que j'évoquais tout à l'heure. Une question aussi, forcément, c'est goût personnel. On va pas... si je suis responsable du rayon SF, c'est qu'a priori, j'aime ça. et puis voilà.
À Paris, on sait que Scylla a donné naissance à Charybde. On connaît l'entremonde. Dwalan nous a parlé sur le forum récemment du dernier bar avant la fin du monde aussi, qui concerne plutôt les rôlistes. Et je ne parle pas des libraires en province puisque je ne les connais pas, mais je sais qu'elles existent. Qu'est-ce que c'est qu'un bon libraire ? Un simple vendeur de livres, plus que ça ? Gilo ?
Allez, je vais faire ma vanne. Alors, les libraires, bon, c'est comme les chasseurs, hein, les bons et les mauvais. Bon, personnellement...
C'est nul comme blague.
Ouais,
c'est pour ça qu'on rigolait pas.
Hein. Je sais, mais bon, elle était dans le plan, personne ne l'a rayé, donc je dis je vais la tenter. Merci si vous avez ri chez vous. Donc personnellement, bon, je sais que c'est une banalité justement, mais je pense que la passion joue beaucoup sur l'appréciation qu'on peut avoir de son interlocuteur en librairie. Bon, évidemment, si on a l'impression que, comme certains qui vendent des livres sans les avoir lus, je ne les citerai pas. Et donc, si on a l'impression que, en fait, le libraire vendrait ses romans comme il vendrait plutôt un four à pain ou un micro-ondes, forcément, ça donne pas forcément.
Il y a des spécialités hyper importantes dans les fours à pain.
Ouais, tu sais pas s'il y a pas des passionnés de four à pain ou de micro-ondes. Là, tu viens
de perdre l'audience.
Et là, je pense que c'est toujours moins grave que d'avoir shooté tous les fans de Diablo. Donc, bon. Mais oui, voilà, enfin, la passion, je pense que c'est très important, puisque c'est un peu ce qui fait le sel, justement, des avis qu'on peut échanger avec quelqu'un. Donc, si forcément on sent que son interlocuteur, ça passe pas, ça refroidit tout de suite.
Oui, Mervin ?
Oui, je suis d'accord avec toi, Gilo, c'est vraiment la... C'est bon, Ian me balançait un truc sur la gueule, en plus, je crois que je suis faillot comme ça, non mais... Et oui, c'est vraiment la passion et puis surtout la connaissance du sujet, surtout pour nous qui sommes vraiment dans le milieu et qui connaissons vraiment la chose. Si on voit que le libraire en face, il connaît juste le top des ventes, des fois, ça passe un peu mal.
Bon, moi, je veux dire qu'un libraire qui te conseillerait Eragon, par exemple, tu lui ferais moins confiance qu'un autre.
Ouais, un peu, ouais. Surtout vu ma tête, tu vois. Non, enfin, moi je sais que personnellement, quand j'entre dans une librairie, je sais déjà ce que je vais acheter, j'ai déjà vu après, soit avec du bouche-à-oreille sur internet ou des choses comme ça. Mais après, pour moi, un bon libraire, justement, c'est pas celui qui va me conseiller quelque chose parce que j'ai déjà ma source d'information, mais c'est plutôt celui avec lequel je vais pouvoir échanger, dialoguer, discuter de ma passion. Enfin, c'est un peu bête comme ça à dire, puisque c'est pas forcément son boulot à lui. Je me souviens que. Donc moi je viens de Clermont-Ferrand et là-bas on avait une librairie...
Oui, le pauvre, je sais, vous pleurez.
On avait une librairie indépendante qui était spécialisée donc, dans l'imaginaire et puis les jeux de plateau, qui s'appelait Luna Libre, qui est malheureusement fermée depuis. Et je sais que c'était vraiment un échange, j'ai fait découvrir au libraire Erickson et il avait beaucoup aimé. Donc,
et il a fermé.
Bah voilà, enfin... Pour moi, c'est vraiment une histoire d'échange. Ouais. Et puis après, bon, s'il me conseille des choses que je vois qu'il est passionné, je vais passer à la caisse, c'est obligé. Mais... Enfin, c'est...
J'ai mal placé de Witch.
Non, j'ai cru à la casserole, mais...
Il n'y a pas que moi, Gilou, et aussi... Pour le mauvais esprit, on est plusieurs ici, je crois. Bon, Aka ?
Ouais, bah, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Hein. Moi, un bon libraire, c'est de toute façon un libraire qui connaît et apprécie ce qu'il vend et qui lui fait passer ce message. Bon, bien qu'il ait quand même le droit de vendre ce qui se vend, hein, toilette en tête. Mais moi, j'apprécie aussi beaucoup les libraires qui ont un large choix de choses, que de livres, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins qu'on trouve au final assez difficilement, bon, surtout quand on commence à taper dans la littérature anglaise. Mais donc voilà, quand je dis littérature anglaise, c'est la littérature VO. Ensuite, moi, un truc qui est important, c'est de savoir, pour un libraire, évaluer son interlocuteur. Moi, je sais que... Le premier livre de fantasy après Le Seigneur des Anneaux que j'ai lu, c'est parce qu'on me l'a conseillé, c'était La Belle Gariade, et j'ai trouvé ça génial, et c'est ça qui m'a fait rentrer aussi dans cet univers.
Le libraire t'avait bien calibré, quoi.
Voilà, c'est ça.
Oui, Mervyn ?
Ils veulent pas me donner le micro pour que je critique La Belle Gariade, non, je te jure. Non, je voulais juste dire que le type de libraire que je décrivais précédemment, c'est pas forcément un libraire indépendant, hein. J'en ai trouvé des très compétents dans des Virgin ou des Fnac... Qui savait de quoi il parlait et qui était très compétent.
Moi, je me souviens de deux libraires chez Brentanos, puisque c'est là où j'ai commencé à acheter mes livres en VO. Librairie à Paris qui a fermé depuis, enfin qui s'est transformée depuis. Michael, Lionel. Non, il y a beaucoup plus d'années que ça. Il y a beaucoup plus d'années que ça. Je lis en VO depuis bien plus longtemps. Tu n'étais peut-être pas né.
C'est vrai que t'es vieille.
Petit con. Et oui, jeune et con à la fois, c'est moche. Donc voilà, je remercie Michael et Lionel qui se reconnaîtront, parce que voilà, c'était un rayon où justement c'était vivant, où il y avait Robert Jordan qui est passé.
Ouais, c'est bon, hein. Arrête les...
Et il est mort.
Les piques.
Voilà, Gibson, enfin voilà, il y avait des auteurs qui étaient invités dans cette librairie franco-américaine, et c'est vrai que c'était les librairies vivantes. Voilà, pour moi, la librairie spécialisée, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vivante. Je me rappelle chez Scylla d'avoir rencontré David Anthony Durham. Je sais qu'à l'Entremonde, elle fait beaucoup de signatures. Voilà, c'est ce qui me semble un peu la différence avec une librairie classique ou celle où on rentrerait par hasard, quoi. Oui, Simon ?
Ouais, enfin, pour revenir sur le bon libraire, c'est vrai que c'est quelqu'un compétent, je pense, passionné, parce que sinon il ne ferait pas ce métier-là, capable de s'adapter, ça c'est vrai aussi. Et je pense que le bon libraire, c'est quelque part quelqu'un qui, après vous avoir conseillé des livres qu'on est en droit d'attendre au niveau du conseil, parfois va vous sortir de votre zone de confort, va vous dire « Tiens, peut-être ce livre-là, je sais que tu n'aimes pas ça normalement, mais peut-être que tu pourrais l'apprécier. » C'est-à-dire que peu à peu, il y a une relation de confiance qui s'établit entre... on parle même plus de client, mais le lecteur et le libraire, et que parfois il va vous dire à un moment, je pense que tu vois, t'étais pas peut-être prêt à lire ça il y a un an, mais maintenant celui-là je te conseille parce que je suis pas sûr que tu accroches, mais il peut vraiment te plaire. Et voilà, enfin, il y a des choses comme ça qui qui, je pense, au bout d'un moment, quand il y a la confiance qui s'établit, enfin, il y a un lien, je pense, assez fort entre les deux.
Pour ceux qui sont pas venus aux Imaginales, je vais vous parler d'un petit moment rigolo sur le stand où justement un libraire de Lyon, je suis désolée, je me rappelle pas son nom, il était invité au petit déjeuner Mercedes Saquet, il vient nous dire bonjour sur le stand et il rencontre un membre d'Elbakine que je citerai pas, mais qui est libraire aussi, et le visiteur n'est pas au courant et il nous parle de son métier et il nous dit voilà, parfois j'ai des clients, et en fait il s'est créé comme un jeu de rôle entre entre l'Elbakinien et ce libraire qui jouait le client désagréable, et c'était très très rigolo de voir la réaction très rapide, savoir oui mais je voudrais un bon livre. Bon d'accord, question ridicule. En fait il y avait vraiment du répondant et c'était rigolo de voir en action ce d'accord, je vais vous trouver un livre quoi qu'il arrive, cette capacité à s'adapter qui me semble effectivement
le bon libraire important. Est patient parfois.
j'imagine. Alors justement, puisqu'il y a de la concurrence à tous les niveaux pour les librairies, qu'est-ce que tu penses, Simon, de la recrudescence des blogueurs qui se désignent, qui s'auto-désignent ou qui sont désignés par la blogosphère comme presque des libraires à la place du libraire, quoi. Est-ce que tout d'un coup il y a pas est-ce qu'Internet devient pas une vraie concurrence pour vous libraires en matière de conseils?
Peut-être, mais à l'origine, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très bien, c'est-à-dire que on peut se conseiller les uns les autres, et c'est vrai que moi, en tant qu'éditeur, au niveau de l'envoi des services de presse, à un moment, j'ai surveillé ça avec beaucoup d'attention, parce que je me suis dit, par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas de Fantasy Hotlist, qui est devenu un blog très influent, donc il y a vraiment des blogs de qualité, mais en France, il y en a aussi en France, mais ce qui m'a un peu déçu, c'est notamment certains mails qu'on reçoit de la part de certains blogueurs où on reçoit un mail, par exemple, ça va être merci de nous envoyer tel titre. Pas bonjour, voilà, c'est.
En SP, en service presse.
En service de presse, ouais, pardon. Et c'est vrai que certains, des fois, exigent des choses comme si c'était un dû, et c'est vraiment assez dommage. Enfin, nous, par exemple, on a arrêté d'envoyer à pas mal de blogs parce que c'était juste plus possible, quoi.
Heureusement qu'il y a des sites spécialisés qui.
Gilo hoche la tête. Non,
pas du tout. Ah ça y est, on va déclencher une guerre.
Non mais c'est vrai que tout le monde peut pas s'instaurer conseilleur, tout ça. Enfin c'est pas parce qu'on aime un livre qu'on le vend forcément bien. Moi par exemple je chronique pas du tout parce que je considère que c'est une technique différente que de dire ouais youpi j'ai aimé. Et effectivement je pense qu'il y a une qualité de lecteur assez variée pour pouvoir se mettre à conseiller aux gens comme peut le faire un libraire. Mais bon ce n'est que mon opinion. Oui Gilo.
Non mais après c'est sûr que on peut pas juger de la qualité non plus du blogueur à la fréquentation, parce que forcément il peut y avoir des chroniques très bien décrites alors qu'elles font, je sais pas, 30 visites, et je sais qu'il y a des blogueurs qui à 30 visites demandent des SP voilà comme ça spontanément. Bon après forcément je pense quand même que quand c'est comme ça, effectivement comme tu dis Simon, on peut peut-être mettre les formes plutôt que de dire merci de nous envoyer comme si c'était un acquis. Enfin, comme si c'était un acquis, quoi, en somme, alors que ça reste.
Mais est-ce que.
Ça reste une vente perdue dans l'absolu pour le.
Est-ce que ça a changé. Est-ce que tu penses que ça a pu changer l'attitude des éditeurs Est-ce que l'attitude des éditeurs vis-à-vis de tous ces blogueurs, elle a pas. Des gros éditeurs, je parle, hein, pas forcément de critiques, mais.
Je pense qu'au début, les éditeurs regardaient les blogs avec d'un œil bienveillant, c'est-à-dire que c'était quelque part une nouvelle façon de parler des livres, en plus des sites internet et des sites de libraires, par exemple. Donc. Moi le premier, au début on a envoyé pas mal de services de presse, et maintenant c'est vrai qu'on a tellement de demandes que si on répondait à toutes les demandes de services de presse, enfin de tirage, il partirait juste dans ça, quoi, donc c'est juste plus possible. Donc voilà, il y a des très bons blogs, je le répète vraiment, mais il y a certains où quand on voit qu'ils font des reproches par exemple au niveau des coquilles, et qu'on voit les coquilles qu'il y a dans leurs propres critiques, c'est vrai que c'est pas. Voilà, c'est parfois.
Oui, la paille, la poutre, tout
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, exactement.
mais c'est vrai qu'on se dit que quand on est passionné, et même si on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on est blogueur et qu'on est passionné, on achète ses bouquins, quoi. Il y a un moment. Enfin, oui. Moi, ça me semble sur une idée de départ. Après, si on devient effectivement un blog comme celui de Pat, c'est un autre niveau. Mais enfin, je sais pas. Il y a un truc sur la passion là aussi qui me semble un peu détourné, biaisé par la vision internet.
Bah, quelque part, c'est un service presse, quoi. C'est pas destiné à n'importe quelle personne qui se dit vouloir, vouloir écrire quelque chose, bah voilà, c'est ça, c'est quand même a priori pour les professionnels.
Gilo ?
Bah, de toute façon, bah, nous, quand on a lancé le site, quand on a lancé le back-in, on ne recevait pas de SP, quoi, vu qu'on... Enfin, personne ne nous connaissait forcément. Donc,
Et 11 ans après, rassurez-vous, on n'est pas 12 à recevoir des SP chez le back-in, parce que je pense que c'est aussi une fausse image qu'on peut avoir du site. On est nombreux à chroniquer, mais la plupart des... À part Gilo, qui est le rédacteur en chef du site et qui est là depuis...
Et qui garde tous les SP pour lui.
Je l'attends.
C'est faux, j'en redistribue beaucoup.
Bon, à part lui, les autres achètent leurs bouquins. Donc voilà, c'est important de le dire parce qu'on peut croire qu'on est tous des gros professionnels de la critique et de la fantaisie. On est des amateurs dévoués et bénévoles. Oui, Gilo, Mervin, Simon.
Non, c'est juste pour dire qu'effectivement, enfin, je veux dire, quand les éditeurs nous adressent un SP, c'est un exemplaire, quoi. Et je veux dire, ils en adressent pas cinq, et puis c'est au premier qui a fini de le lire qui fait la chronique, quoi.
Il faut dire qu'il y a un coût derrière les services de presse, quoi. C'est de la communication. Enfin, c'est forcément, c'est un coût. L'éditeur sait qu'il va y avoir un coût, mais le livre gratuit, il est aussi, voilà, il y a le prix de l'impression, il y a le prix de l'envoi qui est souvent supérieur. Donc voilà, il y a aussi un coût, surtout pour les petits éditeurs. Donc des fois, faut réfléchir là-dessus aussi.
Mervin.
Je voulais revenir sur les blogs sans faire de généralité parce que il y a certains blogs que j'aime beaucoup et qui sont vraiment de qualité. Mais ça me rappelle un peu un billet d'humeur que Gilo avait rédigé au début d'année sur les critiques et les notations. Et c'est vrai que des fois je sens sur certaines critiques de blogs que le blogueur qui lui est peut-être flatté de recevoir un SP, de se sentir un peu
dans le milieu.
Comme un professionnel du milieu. Il va avoir peur de faire une mauvaise critique de certains romans, et c'est vrai que des fois ça se sent que sur des romans qui sont objectivement pas forcément excellents, on sent quand même que derrière le fait que ce soit un SP, ça joue un peu sur la critique.
Oui, Gilo.
Mais je pense que les éditeurs jouent aussi là-dessus. Hein. Je veux dire, quand il y a des partenariats, des concours et tout ça.
Faut pas croire que c'est tout la faute des blogueurs non plus.
C'est aussi fait pour ça, quoi, parce que. Je pense qu'il y a un fond de bienveillance espéré, en tout cas, du côté de
gratitude
de l'éditeur du fait qu'il offre le livre, quoi.
Bah, ça reste quand même un objet de pub quelque part, CSP. Donc but c'est de se faire connaître, si possible en bien, quoi.
Bah, c'est sûr que c'est moins cher qu'une campagne dans le métro, même si dans l'absolu, forcément, ça touche beaucoup moins de monde aussi.
Alors, pour continuer sur la partie internet, est-ce que le livre électronique, c'est une menace pour les libraires, Simon ?
En ce moment, enfin, je sais pas. En ce moment, il y a tellement de choses qui sont dites autour de livres numériques, c'est dur de faire le tri. Tout le monde dit qu'il faut le faire vite. Alors, moi, j'ai certains chiffres que m'ont été donnés que je peux pas dire ici, mais c'est très faible. Vraiment, les ventes moyennes de livres numériques, il y en a une, par exemple, c'est sur le dernier Goncourt. Donc, je crois qu'il s'est vendu à 300 000 exemplaires. C'est 1500 livres numériques. Donc, ça reste vraiment très faible. Et surtout, ça ne fait vivre personne. On parlait de la chaîne. Là, à l'heure actuelle, le livre numérique, ça fait vivre vraiment personne, quoi. Ni l'auteur, ni l'éditeur, ni le diffuseur-distributeur. Donc,
en plus, le Goncourt comme en livre numérique, c'est ridicule. Tu ne peux même pas le mettre dans ta bibliothèque pour faire voir que tu as le Goncourt de l'année.
Que tu l'as lu, en plus. Tu ne peux même pas briller en société. Qui était... Donc,
si tu veux caler un meuble avec ta liseuse...
Ça fait
c'est,
cher.
Que c'est que t'as pas tout compris, je crois. Ouais.
Finalement, avec les méthodes de Gilo, ça fait vivre pas mal de gens, hein, si tu utilises une liseuse à chaque fois.
Oui, merci.
Et justement, bon, le succès du livre numérique est peut-être pas forcément encore visible ou réel, mais s'il le devient un jour, comment un libraire peut, lui, s'y adapter ? Est-ce qu'il pourra vendre ? Est-ce qu'il y aura des solutions ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ?
C'est un peu tout de la question. C'est-à-dire que là, la chaîne du livre, quelque part, avant le livre numérique, on savait le pourcentage de chacun. Et chacun s'en contentait un peu. Là, maintenant, il y a le livre numérique, et on voit qu'on peut se passer de certaines personnes dans cette chaîne du livre-là. Et on ne sait pas vraiment qui va sortir gagnant et qui va sortir perdant de là. Et chacun essaye d'augmenter un peu son pourcentage.
Et qui va sortir du jeu, quoi.
Et qui va, exactement, et qui va sortir du jeu. Là,
taper un pour les libraires.
Non, mais c'est vrai.
Game of Thrones.
Et à l'heure actuelle, bah, vraiment, j'en ai vraiment aucune idée. Je pourrais pas répondre parce que voilà, enfin, j'ai entendu plein de choses, mais le libraire indépendant, pour l'instant, nous, on a essayé à un moment d'avoir une borne, mais ça a été un échec. On n'est pas réussi à le faire. Ils ont mis la clé sous la porte avant. On essaye de faire des tentatives, mais c'est vrai que pour l'instant, tout le monde essaie, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de modèle économique qui se met en place.
Oui, Gilo.
Mais en fait, comme c'est pas rentable encore pour les éditeurs, c'est plus une façon pour eux d'occuper le terrain en attendant que ça le devienne, pour l'instant.
Oui, pour l'instant, ouais, tout à fait.
Merwin ?
Et puis, sur Critique, vous êtes très, très orienté BD aussi, c'est peut-être un peu plus sécurisé, puisque la BD en numérique est encore... loin d'être aussi réussi que pour les romans.
Que pour les romans, ouais, je pense.
Un peu plus
safe. Ouais, mais nous, on voulait plutôt, enfin, quand je disais qu'on a voulu faire une borne, c'était pour vraiment le roman d'abord. Et, mais même là, c'est vraiment difficile d'avoir les bons interlocuteurs. Enfin, voilà, pour l'instant, c'est brouillon, c'est très brouillon comme marché.
Gilo ?
Oui, sinon, au niveau des librairies, enfin, une solution qui a l'air de quand même de se répandre aussi, c'est de faire un genre, par exemple, les cafés BD. Enfin, je sais qu'à 300 mètres de chez moi, ouais, je sais, ça intéresse beaucoup de monde. Il y a une librairie.
Lilloise, si vous nous écoutez.
Il y a une librairie BD avec un café avec des mojitos.
Ça, c'est pour Witch.
Ça se lit pas, un mojito.
Et autre cocktail, mais c'est aussi une façon, j'imagine, de diversifier. Bon, évidemment, après, si les gens sont là que pour les cocktails et n'achètent jamais une BD dans l'absolu, je suis pas sûr que ce soit rentable. Sauf si c'est des gros consommateurs de cocktails. Mais sinon, j'imagine que c'est aussi une façon de résister, parce que jusqu'à preuve du contraire, le livre électronique ne propose pas de
mojito.
De mojito, donc.
Si le mien, il y en a toujours à un côté. Un Kindle, un mojito, c'est automatique.
Non, enfin, je sais pas.
Enfin, il y a aussi la question, on parlait de la diversification chez l'éditeur, mais il y a aussi chez les libraires en ce moment. Tout à l'heure, on parlait d'une libraire qui faisait jeux de société. Nous, c'est vrai qu'on a commencé là à faire du DVD, par exemple, ou à faire des goodies. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, le libraire, il a besoin de trésorerie. Il a vraiment un besoin de trésorerie. Et il essaye un peu de se diversifier. Et pour l'instant, le livre numérique n'offre pas encore vraiment cette opportunité. Voilà.
Tu veux dire qu'on peut pas acheter de marque-page avec un livre numérique, c'est pas bien.
Mais oui, en particulier dans la BD, on voit pas mal de goodies, quoi, typiquement des tableaux ou des petites figurines de personnages de BD, pour ne pas le citer.
Ouais, mais ça a marché très longtemps, mais c'est vrai que comme le budget a tendance à être réduit, maintenant les gens qui achètent ces figurines aussi, on voit que la figurine notamment, elle marche moins bien qu'il y a quelques années, et que c'est plutôt les tirages de tête par exemple, ou des choses qui étaient un peu plus chères, des produits un peu plus de luxe encore, ça a tendance à diminuer. Ouais.
Et pour en revenir sur ce café BD, en effet, c'est un phénomène qu'on avait vu apparaître... il y a quelques années aussi pour les jeux de société, où apparemment il y a quand même aussi un peu une crise du jeu de société dans la surproduction aussi. Il y a énormément de production de plus en plus. Et il y a en effet pas mal de... Voilà. Déjà, les magasins de jeux de société, en tout cas ceux auxquels je vais, me disent souvent que ce qui les fait vivre, c'est quand même plus les jeux de cartes à collectionner ou éventuellement les jeux de figurines du type Game Workshop que le jeu de société lambda.
Classique.
Et on voit que sinon les autres, ceux qui s'en sortent sont souvent, proposent des tables et des systèmes de café jeux de société.
Ouais, c'est aussi faire de la librairie ou du magasin de société un lien social, c'est-à-dire que s'il y a des tables, on peut discuter, voilà, c'est créer aussi un environnement convivial, je pense.
Ouais, tout à fait.
Alors du coup, passons à celui qui fait peut-être vivre le libraire, à savoir le lecteur. Quelles sont nos habitudes d'achat ? Est-ce que on privilégie librairie indépendante, revendeur d'occasion, internet, la grande distribution ? Gilo, dans ton cas, en dehors des SP, je veux dire.
Oui, alors est-ce qu'on est obligé de s'apesantir
de cette année ?
Ça commence à être déplaisant. Bah non, mais dans mon cas, je fais un peu de tout. Alors j'avoue, pour tout ce qui est étranger, bon, j'ai commencé par là, donc j'ai commencé par commander des bouquins sur internet quand c'était pour avoir de la VO, donc j'avoue que j'ai continué parce que j'ai toujours fait comme ça. Pour le reste, c'est vrai que donc je reçois beaucoup de SP, merci de le signaler une fois de plus. En plus, très très subtilement. S'il s'agit d'ouvrages un peu à part, donc avec, par exemple, des éditeurs avec qui on n'a pas de relation particulière, et que je sais qu'on peut les trouver facilement, voilà, j'essaie de faire l'effort et de me déplacer. Oui, ça m'arrive. Et sinon, j'ai constaté que c'était plus souvent le cas en BD, justement, de mon côté. Alors, je sais pas, peut-être parce que j'ai toujours plus facilement trouvé des librairies spécialisées BD avec une forte composante SF fantasy que l'équivalent pour ce qui est plus roman, en n'étant pas parisien, donc j'ai pas eu l'occasion de trouver ça. Donc voilà, je vais plus souvent en librairie finalement pour la BD que pour les romans.
Oui, Mervyn.
Ça c'est vrai pour mon cas aussi, mais moi je sais que depuis quelques années je lis pratiquement que de la VO, donc anglaise. Et je sais que au moins sur ma ville ou ma région, les librairies anglaises, c'est pas légion. Il y a bien quelques rayons Fnac ou Chapitre, mais au final, en tant que conseil personnalisé de lecture, j'en ai pas plus que si je les ai achetés sur Internet. Donc pour moi, c'est beaucoup plus Book Depository que me déplacer en librairie ces derniers temps. Et puis oui, Book Depository plus qu'Amazon d'ailleurs, parce qu'on peut avoir des réductions alors et qu'Amazon n'a pas le droit d'en proposer. Donc,
Amazon, c'est le mal. C'est le libraire indépendant qui parle.
Trop tard, j'ai un Kindle. Je suis désolée. Oui, Aka.
Ouais, bah, moi, j'aime bien le libraire quand même. J'ai assez peu sur Internet. Bon, l'avantage d'être parisien. Ensuite, j'ai vécu jusqu'à mes 20 ans à environ 5 minutes à pied de chez Gibert. Donc, j'ai exploité le filon un certain nombre de fois. Donc, autant au niveau fantasy qu'au niveau littérature en VO.
Gilo ?
Oui, est-ce que tu as croisé un certain Geeks chez Gibert qui conseillait des livres de façon assez spéciale ?
Malheureusement, j'ai pas eu ce bonheur. Je pense qu'il était pas né quand j'y allais encore.
Ah bon ?
je commence à m'y faire un petit peu à Internet, principalement pour retrouver des bouquins d'occasion. J'aime bien lire les bouquins d'occasion, en fait. J'aime bien les livres. Pour moi, contrairement à la BD, où la BD doit être en très bon état, etc., j'aime bien le livre qui a vécu, qui est plus aussi nickel qu'avant. Et du coup, j'achète beaucoup d'occasions. Et en priorité, que ce soit chez Gibert ou dans un libraire indépendant, ou en dernier recours sur Internet.
Oui, Mervyn ?
Oui, c'est juste pour préciser à ceux qui s'arrachent les oreilles que c'est une hérésie de prendre un livre qui a été tout abîmé, tout un livre, ça doit être tout propre, tout beau, et ça ne va pas avoir une tranche cassée ni rien.
Et personne ne doit l'avoir lu avant toi. Je suis assez d'accord, mais bon.
Je les lis, de toute façon, je les lis dans les transports, etc. Je lis principalement en me déplaçant. Donc, au bout de 3 jours, le livre, de toute façon, il ne ressemble plus à rien. Donc,
Que t'as pas la technique, moi j'ai du papier bulle. je déconne pas.
Si dans les transports vous voyez un homme bizarre qui sort son livre de son enveloppe papier bulle, c'est certainement Mervyn. Vous pourrez le reconnaître dans la rue désormais. Moi, dans mon cas, j'ai après être passée effectivement donc parisienne, j'allais beaucoup acheter mes livres chez Gibert parce que c'était là où c'était le mieux fourni et le moins cher. Je suis passée à la VO donc en passant par Brentanos, par le rayon VO de Gibert aussi qui était quand même un des mieux achalandés. Et puis avec Internet, moi je suis passée très vite à Amazon parce que je lis presque qu'en VO. J'essaye de me résoudre maintenant pour les bouquins français à les acheter chez un libraire spécialisé parce que ça me semble le meilleur moyen de faire vivre. D'ailleurs, de la part de ce libraire spécialisé, si vous êtes très pote avec votre libraire ou en tout cas si vous y êtes un client régulier et que vous devenez un lecteur plus qu'un client, il vous fera les 5% que vous fait la Fnac, il vous fera les 5% que vous fait que vous font
la Fnac ne fait plus maintenant si on n'a plus la carte,
si on n'est pas adhérent,
sauf si on est sauf sur Internet.
Voilà, il y a aussi une relation, voilà, ça devient votre fournisseur en drogue préféré, donc il y a un moment où enfin, moi, je pense que c'est important, on y reviendra peut-être, mais que le rôle du lecteur, s'il en a un dans la chaîne, c'est celui-là, quoi. C'est d'essayer de faire en sorte que les choses puissent continuer à vivre de façon conviviale, plus que dans la froideur de l'écran et du clavier. Mervyn ?
C'est ça qui est bien avec les libraires, c'est que quand tu les connais et que tu y vas souvent, ils peuvent te faire une réduction. Mais alors, moi, quand je vais acheter ma cocaïne chez le dealer du coin, les prix augmentent toujours. Pourtant, je suis fidèle et tout.
Pas de loi langue encore qui couvre.
Mais t'as une carte de client privilégiée ou pas ? Parce que sinon, évidemment.
C'est ma carte de crédit, c'est celle qui me permet de faire les rails.
C'est pas vrai. Oui, Gilo.
Maintenant, tout le monde sait comment on finance l'hébergement du site. Hein, c'est...
Bon, et est-ce que la solution pour les libraires indépendants, une des solutions, c'est pas justement ce qu'on a vu à un moment exister sur Internet, je sais pas si c'est toujours le cas, mais l'existence de plateformes qui réunissent plusieurs libraires, Simon ?
Nous, enfin, on a pas mal d'associations, c'est-à-dire que par exemple à Rennes, on a une association qui s'appelle Aliar qui regroupe tous les libraires indépendants et on n'hésite pas à se conseiller. D'aller par exemple si quelqu'un nous demande un livre qu'on va pas avoir en littérature générale, on va l'envoyer dans une autre librairie. Donc je pense que à l'heure actuelle les libraires indépendants cherchent des nouvelles manières de se serrer les coudes et de faire face ensemble à cette crise. Nous c'est vrai qu'on n'a pas encore fait de plateforme, donc je pourrais pas vraiment en parler, mais il y a des associations qui existent, des plateformes, des manières de se regrouper pour essayer de faire face ensemble.
D'accord. Et on n'en a pas parlé, mais on va lui faire un petit coucou spécial aussi. À Grenoble, il y a une librairie qui s'appelle Au Merveille, qui est spécialisée. Et Fred était avec nous, était un des organisateurs de la première convention de fantasy et la 37e de SF il y a 2 ans à Grenoble. Donc voilà, lui aussi, si vous êtes sur Grenoble, c'est une très belle librairie spécialisée qui prend la peine de se déplacer sur les festivals et qui est très impliquée. Gilo ?
Et qui propose aussi nos recommandations sur son site internet.
C'est vrai. Il a bon goût, c'est fou.
Oui, c'est bizarre. Hein.
Alors justement, je l'évoquais un peu, mais quand on est lecteur, est-ce que vous pensez qu'il faut se sentir responsable en partie de la chaîne du livre ? Est-ce que le marché doit se modeler à nos besoins et à nos modes de fonctionnement ? Et puis tant pis pour les libraires indépendants, oui. Simon ?
Moi je pense que d'abord, ce qu'on oublie souvent, c'est que le client est roi. C'est-à-dire que c'est lui qui est au bout de la chaîne et c'est lui qui doit choisir. C'est à nous libraires d'être capables de s'adapter aux clients et c'est aujourd'hui difficile parce qu'il y a une concurrence qui est de plus en plus vive, mais à la fin, celui qui a le dernier mot, c'est le client. Pour les succès ou les insuccès d'une série par exemple, pour sa manière d'acheter, il faut qu'on propose des services que les autres ne proposent pas ou des manières de vente différentes. Par exemple, nous, on a un blog qui nous prend un temps fou, mais voilà, on fait même profiter des personnes qui vont acheter dans d'autres librairies, mais au moins, on essaye d'avoir une reconnaissance et de fournir des services qui font qu'on n'est pas n'importe quelle librairie, voilà.
Je te vois souvent, je te lis souvent intervenir sur le forum sur les sujets justement où on parle de qu'est-ce qui est bien à lire, qu'est-ce qui est pas bien à lire, pourquoi les lecteurs choisissent pas la qualité plutôt que le tout venant. Et je trouve intéressant ton point de vue souvent sur le lecteur est roi malheureusement ou heureusement, non. Peu importe. Mais non, ce que je veux dire c'est que souvent tu dis que la réalité du libraire elle est pas celle de l'intervenant en forum qui dit attention, ça c'est de très bonne qualité, je comprends pas que ça soit pas un succès. Oui. Il y a des romans de très très bonne qualité qui se vendent pas, malheureusement. Gilo ?
Oui, mais c'est aussi, je pense que c'est ce qu'on a vu un peu dans les résultats du sondage que tu citais en introduction du débat, c'est qu'aussi, il ne faut pas oublier que sur un site comme elbakin.net ou sur le forum, c'est vraiment un public de passionnés qui, justement, a un œil souvent très pointu sur ses lectures, mais qui n'a pas peut-être le recul du lecteur lambda, on va dire, sans aucun jugement de valeur, bien sûr. Et qui justement, qui dit passionné, dit souvent lecteur en général, prêt à mettre un peu plus que la moyenne, on va dire, au niveau argent tout simplement. Et puis aussi peut-être tendance à hiérarchiser ses lectures. Et effectivement, c'est sûr que dans l'absolu, on préférerait que Erickson ait toujours un éditeur français que
tout à fait.
que Christopher Paolini, dans l'absolu. Mais voilà, enfin, le fait est que c'est pas le cas.
Mervyn.
Je suis d'accord, tout à fait d'accord sur le fait que de toute façon le client, le consommateur final est roi, mais en même temps on peut pas aller commander tous ces bouquins sur Amazon et puis le lendemain dire oh, zut, moi qui voulais avoir le livre le jour J, j'ai pas de librairie au coin de chez moi. Enfin, y a un peu, c'est un peu comme être un citoyen responsable, il y a aussi un peu être un lecteur responsable.
Ok.
Bah oui, c'est ça. Ensuite, il faut assumer aussi ses choix. Moi, je pense que, bien évidemment, c'est là-dessus un commerce, entre guillemets, comme un autre. C'est que, de toute façon, c'est celui qui vient acheter qui dirige quelque part, qui choisit. Mais ensuite, moi, ça m'empêche pas de préférer acheter chez un libraire indépendant, même si je me sens pas obligé d'aller le faire vivre. C'est quand même tout de suite plus agréable. C'est une échelle humaine. C'est pas juste devant un ordinateur. Et puis le jour où je vais acheter sur internet, je vais pas aller ensuite critiquer le libraire parce qu'il l'avait pas Il n'était pas ouvert quand j'ai voulu acheter, il n'était pas... Ah.
Simon ?
Là, je parle en tant que lecteur, hein, parce qu'avant d'être éditeur et libraire, je suis aussi un grand lecteur. Je pense que cette notion de lecteur responsable est très importante, parce que souvent on entend des personnes qui vont râler contre le manque d'auteurs français, mais par contre qui ne vont pas aller chercher, fouiner dans les petites maisons d'édition ou chercher ce que fait la micro-édition. Donc, il ne faut pas non plus s'arrêter à des préjugés et pas hésiter à les fouiller, parce qu'il y a de très bons auteurs, il y a de très bonnes choses, et il y a un conseil qui est offert soit en librairie, soit sur Internet, par exemple avec Elbakin. Donc, faut pas s'arrêter à ses préjugés et aller au-devant de l'information. Je pense que c'est très important aujourd'hui.
Oui, Gilo.
Après, ouais, c'est vrai que ça me rappelle aussi par rapport plutôt aux auteurs, là, pour le coup, donc on s'éloigne un peu, mais ça me rappelle un sujet qui avait été abordé, pareil, encore une fois, sur le forum, sur le fait que est-ce que les gens préféraient les auteurs anglo-saxons, les auteurs français, etc. Et ouais, enfin après, c'est pareil, quoi. Je veux dire, enfin, moi, en tant que lecteur, je me sens pas non plus... comment dire, obligé de soutenir la demande, enfin l'offre, l'offre française, quoi. Je veux dire,
pas plus chauvin que ça, quoi.
Ouais, bah non, enfin pas au niveau, enfin de toute façon je sais que c'est pas le propos de Simon, mais c'est juste que je rebondissais dessus. Mais après, c'est vrai que je me sens pas non plus aller être curieux, c'est une chose, mais après voilà, je vais pas acheter ou je vais pas être plus
clément avec des
auteurs, plus clément, ouais, plutôt avec un auteur français parce qu'il est français, parce que c'est son premier roman et qu'il faut le soutenir. Après, si le roman est bon, bah on va le dire avec la même force que, enfin, autant j'ai pas d'a priori sur un auteur américain qu'on présenterait comme le coup de cœur de l'année.
Très souvent d'ailleurs.
Le coup de cœur du trimestre. Ah non, le coup de cœur du mois, pardon, d'un certain éditeur. Mais autant, voilà, après, je me sens pas d'obligation à pousser les auteurs français, même si c'est parfois plus facile de sympathiser avec eux, bah, ne serait-ce que parce que on les croise plus souvent ou on les interviewe plus facilement.
Oui,
c'est moi, j'ai pas le même positionnement, enfin, en tant que lecteur, encore une fois. C'est-à-dire que sur un premier roman, par exemple, j'aurais plus de sympathie. C'est-à-dire de... Enfin, même que je vois quand je suis éditeur, les premiers romans, il y a des erreurs, tout ça, mais il faut essayer d'aller voir qu'est-ce que l'auteur peut devenir. Et aussi, dans les auteurs français, moi, j'ai plus tendance à aller découvrir... j'ai deux livres que je connais pas, de deux auteurs que je connais pas. J'aurais plus tendance à aller lire le livre français, parce que je pense qu'on a un travail de promouvoir notre fantaisie à nous, et on a des spécificités, on a des très bons auteurs. Enfin, je pense que Jaworski a mis tout le monde d'accord, il y a eu Justine Augret par la suite. On a de très grands auteurs, on a peut-être un petit décalage parce qu'il y a eu un trou noir en France dans la science-fiction et même dans la fantaisie, mais à l'heure actuelle, on a de très grands auteurs et faut le crier haut et fort.
Alors, moi, contrairement à Gilles, enfin, pas contrairement d'ailleurs, mais peu importe, je pense qu'il y a un truc qui est vraiment intéressant dans le fait de rencontrer l'auteur. Non, mais tu disais que même si on les connaît ou même si on a plus l'opportunité de les rencontrer, c'est pas forcément pour ça que leurs bouquins sont meilleurs ou seront plus mis en avant. Moi, j'ai remarqué, alors ça me concerne peut-être que moi, mais que souvent la rencontre de l'auteur, la discussion avec... Enfin, je pense qu'il y a des auteurs qui sont des méga bons vendeurs de leur propre... de leur univers. Non, mais c'est vrai.
C'est très vrai.
Si on a assisté à une explication de son bouquin par Jean-Luc Marcastel, qui écrit Louis le Gallou, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont repartis avec l'histoire dans la tête avant même d'avoir lu le bouquin et qui l'ont acheté juste parce qu'il l'a super bien vendu. J'ai rencontré aux Imaginales des auteurs, celui qui a gagné, Frédéric Petitjean, qui a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire. Moi, j'aurais certainement pas été voir son bouquin et en dehors du fait qu'il ait eu le Grand Prix, discuter avec lui et lui demander de me raconter son livre, c'était vraiment un bon moment. Je pense qu'il y a des fois comme ça où peut-être que quand l'auteur, alors on dit toujours que l'écriture, enfin les œuvres devraient pas avoir à être expliquées, un peu comme les tableaux ou tout ça, mais parfois pour moi l'écriture c'est un peu comme l'art abstrait. S'il y a quelqu'un qui t'explique derrière ou qui te donne qui te fait partager sa passion, c'est bien. Oula, Aka et Gilou en même temps. Aka d'abord.
Yes. Oui, moi ça me paraît même évident, en fait. C'est juste que tu connais la personne. Tu vas donc associer une histoire à l'imaginaire d'une personne que tu connais. Si tu apprécies cette personne, t'as forcément un bon a priori pour le livre et tu vas le lire d'une façon différente.
Même sans connaître, enfin, tu vois, j'ai pas eu l'occasion de connaître Frédéric Petitjean, c'est juste sa façon de parler de son œuvre.
Oui, mais même sans parler de connaître très de façon hyper intime, mais
non. Voilà. Mais,
ah bon.
Ne serait-ce qu'en en voyant la personne, tu as associé quand même ce quoi.
Tu
veux dire, tout
si
de suite plus de sympathie.
Ou...
Exactement. Franchement, il y aurait un livre écrit par. Comment s'appelle ton
au fond,
Non, je pensais à ton acteur préféré.
Viggo Mortensen, par exemple.
Par exemple. Tu... Tout de suite, je suis
James
sûr que.
Spurfoy, tu veux dire.
Voilà, c'est celui-ci.
Mais tu vois, par exemple, ça a marché pour Solomon Kane. Je pense que j'ai plus aimé le film quand je l'ai revu après que l'auteur et le réalisateur et l'acteur me l'aient expliqué. Bon, alors le charme y est certainement pour quelque chose. Pas grave. Mais non, mais je pense qu'il se passe un truc comme ça, un peu comme quand un libraire vous vend bien le truc parce qu'il vous raconte, parce qu'il vous fait partager ses trucs de lecteur, quoi.
Ouais, les petites histoires autour de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a des petites histoires de rencontres. Alors ça peut se passer bien ou pas, hein, parce que moi j'ai c'est un auteur que j'ai rencontré, c'était totalement antipathique, je n'aurais pas de nom, mais par exemple un auteur que j'ai adoré rencontrer, c'était Graham Joyce à Étonnant Voyageur à Saint-Malo, et j'adorais ses bouquins. Et, quand j'ai rencontré la personne, j'ai vu qu'il était comme ses bouquins, que c'était juste incroyable, quoi. Parce que la dédicace qu'il m'a fait, c'est la dédicace me rappelle le bon moment que j'ai passé. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a quelqu'un, je pense, derrière le bouquin.
Gilo.
Oui, alors en fait, je pensais à ce que tu disais sur la relation avec non intime avec les auteurs. En passant, pour Frédéric Petitjean, il y avait une très bonne critique pourtant pour présenter l'histoire du bouquin. Mais
je ne lis pas tes chroniques, tu le sais quand même.
Oui, mais c'est mal. Bref, et donc en fait, moi je pensais à un exemple un peu de ce genre. Bon, je sais que je trouve par exemple Mathieu Gabory très sympathique, notamment dans nos échanges de mails et tout ça, et j'ai pas du tout aimé Chronique du Soupir, quoi.
Si tu as tort, c'est un excellent livre.
Non, je trouve pas, je vais pas revenir là-dessus une fois de plus, mais pour autant, voilà, donc je pense qu'on peut arriver à faire la part des choses entre la personne et son œuvre, enfin il faut essayer, quoi, sauf avec Thierry Goodkind. Mais non, je plaisante bien sûr, cher membre du forum. Mais bon, sinon à ce moment-là, Lovecraft, qu'est-ce qu'il faut en dire, ou Céline et compagnie, donc. Enfin, là,
on a aussi un débat là-dessus sur le forum.
Oui.
On a des débats sur un peu tout, donc vous pouvez venir chercher. On parle.
Là, on doit faire un podcast spécial forum. On va lister les 2000 sujets.
Bon, et pour aborder un sujet qui fâche justement, est-ce que le prix de vente du livre, est-ce que le lecteur est condamné à rester un petit peu comme le pigeon ou le dindon de la farce? C'est-à-dire que Simon, tu as abordé la question de la TVA récemment, on espère qu'elle va être ramenée à ce qu'elle était avant cette chouette décision.
François, si tu nous écoutes.
François nous écoute, évidemment.
Normalement, le retour de la TVA, apparemment, c'est presque fait, quoi. Je pense qu'elle va redescendre, mais par contre, le prix des livres ne va pas redescendre. Enfin, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que il y a deux dindons de la farce. Il y a le libraire qui a un stock, c'est-à-dire qu'il a dû changer le prix sur tous les livres, et même à chaque fois qu'on reçoit un livre, le prix est imprimé. Donc il faut qu'on efface le vieux prix et qu'on mette le nouveau. Donc le libraire aussi a été le dindon de la farce sur cela, beaucoup plus que les autres. Et après, le lecteur, qui est toujours le plus grand dindon de la farce pour le coup, a vu le prix augmenter. Mais donc là, la TVA va revenir, je pense. Après, j'espère, hein, je me trompe peut-être, mais je pense va revenir à 5,5, mais les prix vont pas redescendre. Je pense qu'ils vont rester tels quels, parce que les éditeurs ont dû changer les prix dans toute leur base de données. Alors voilà, ils vont dire que ça demandait un coût, ce qui est vrai, hein. Il y a aussi le coût d'étiquetage, voilà, c'est des coûts bêtes, mais des coûts qui existent. Et je pense que le prix va rester là, malheureusement. Moi, en tant que libraire, j'espère sincèrement qu'il va redescendre, et en tant que lecteur aussi, mais j'y crois pas trop.
Gilo.
Mais si ça redescend pas, alors l'augmentation qui aura pas été, qui sera pas redescendue justement, est-ce que, enfin, à qui elle va profiter? Ça va être aux éditeurs du coup, ou...
Un peu aux éditeurs. Le libraire va pas vraiment profiter, parce que moi, par exemple, le mercredi, on a énormément de livraisons, surtout ce qui est réassort, donc les livres qui sortent pas le jour même, mais qui sont des commandes, soit pour les librairies, soit pour les clients. On doit, sur chaque livre, s'il n'y a pas un code prix, changer, quoi. Ça prend un temps qui est juste monstrueux. C'est vraiment un temps qui est énorme. Donc voilà, ça va profiter à certains, c'est sûr, mais je pense que la chaîne du livre est suffisamment mal pour que ça profite pas trop non plus. Voilà, faut pas croire que...
Cela dit, je me dis maintenant qu'on peut un tout petit peu s'estimer heureux en tant que lecteur français, parce que pour avoir vu le prix des livres en Australie récemment, et là, 36-15 My Life, et le prix des livres au Canada, mais un truc de malade, quoi. Enfin, on peut acheter des livres, enfin, moi j'ai vu des prix sur Imri Gabriel, enfin sur des livres qu'on connaît, sur le Trône de Fer, des choses. J'ai discuté avec une jeune libraire au Québec, à Montréal. Il y a les prix, c'est 35% de plus qu'en France, quoi. Il y a un truc de je sais pas comment ils font pour acheter des livres, Mervyn.
Juste pour précision, tes livres canadiens, c'était en anglais ou en français ?
Non, en français. D'accord, en français. Okay. Donc la libraire m'expliquait qu'elle était plutôt une lectrice française à la base, mais qu'elle s'était mise à la VO parce que pour la plupart des bouquins qui avaient du succès, genre Game of Thrones, Hunger Games, les éditeurs mettaient... Alors les prix sont fixés par les éditeurs. Alors donc là, il y a des questions à se poser sur les éditeurs français qui vendent au Canada, parce que moi j'ai vu des livres... Enfin, Anna Gavalda de chez Olive de Poche, il est à 12 dollars canadiens sans les taxes, ça fait, enfin c'est un livre de poche de librairie, de littérature blanche, un Gavalda quoi quand même. Donc et voilà, et puis j'ai vu du Imriel à 35 dollars, un truc comme ça, le bouquin de Brajon. Là il y a un truc qui est effarant, quoi. Je sais pas comment. Et la libraire m'expliquait qu'elle était passée à la lecture VO pour éviter les coûts. Oui, Gilo.
Le Brajon n'était pas à 30 euros.
Non, il n'était pas.
Non mais
en prix français, non, il doit être à 28, mais
oui, il doit être à 28. 30 euros dans la version hardback.
30 euros, ouais, oui, ouais. C'est ça. Ah ouais. Mais non, il y avait vraiment. Enfin,
il y a pas mal de taxes. Moi, pour moi, on est diffusé notamment au Canada, mais il y a vraiment d'énormes taxes. Et là, c'est plus l'éditeur qui choisit. Ouais. Il y a le prix qui est indiqué sous le bouquin, et là, ça. On n'a pas le choix. Enfin, voilà. Nous, moi, je sais même pas combien sont vendus de livres critiques qui sont, par exemple, au Canada, mais je sais qu'il y a beaucoup de taxes et là, on n'y peut vraiment rien, quoi. Là, c'est des choses. Mais par contre, pour revenir au prix en France, je pense que le prix d'un livre en France est vraiment protégé par la langue et surtout la diversité actuellement du livre. On a une diversité qui est toujours qui est énorme. On parle toujours des livres, pour ceux qui lisent la VO, des livres en poche qui sont très peu chers aux États-Unis. Mais il faut se rappeler qu'aux États-Unis, par exemple, sur le Trône de Fer, ils ont un lectorat qui est juste immense et que les impressions sont immenses et que le coût d'un livre est ridicule du coup. Tandis qu'en France, à l'heure actuelle, on considère que le public doit être peut-être de l'ordre de 50 000 personnes. C'est vraiment dur de faire des impressions aussi énormes. La première impression, je crois, du Trône de Fer, enfin, j'ai plus les chiffres en tête, je vais dire des bêtises, donc je vais rien dire, mais qui était juste hallucinant. Ou Eragon, qui doit être à 400 000, le livre, il coûte plus rien à ce stade-là, donc forcément, ils peuvent faire des prix qui sont très bas. En France, on a une diversité, on a un prix unique, et je pense que pour le coup, c'est pas le lecteur là dans la farce, au contraire, il peut compter sur une diversité au niveau des librairies et au niveau des éditeurs. Et je pense que c'est... qu'il n'y a peut-être pas autant aux États-Unis ou en Angleterre. Donc,
ouais,
je pense que c'est
plutôt pas mal. Française qu'on peut...
Ouais, vraiment.
Souligner. Gilo ?
Ouais, donc pour toi, si cette loi sautait, par exemple, ça serait, ça serait la fin, le chaos, quoi.
Ah bah, si la loi saute, j'arrête l'édition, j'arrête la librairie tout de suite. On a aucune chance. On a vraiment aucune chance. Il y avait une loi, je crois, similaire en Angleterre, et ils ont tous descendu, les grosses chaînes ont descendu les prix d'un coup comme ça. Les libraires indépendants, forcément, pouvaient plus rivaliser, et après, les prix ont augmenté. Mais eux, ils peuvent encaisser quelque chose assez longtemps parce qu'ils ont des finances derrière, et ça se trouve, ils ont d'autres enseignes. Ouais, d'autres enseignes dans d'autres secteurs, tandis qu'un libraire, c'est plus possible. Et pareil pour un petit éditeur, il peut pas faire ça longtemps.
Il y a pas un film avec Meg Ryan et...
Vous avez un message.
Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau.
Au secours.
Oui, Gilo.
Oui, j'ai encore une autre question par rapport au prix du livre. Alors, c'est une question mystère qui n'était pas sur le plan.
Waouh,
je vais me faire piéger.
Non, pas, franchement, elle n'est pas du tout posée dans cet esprit-là. C'est juste que je me posais la question, en fait, quelle est la part de l'imprimeur, en fait. Parce qu'on a beaucoup de livres maintenant imprimés à l'étranger aussi. Donc, est-ce qu'on y gagne vraiment pour... Enfin, est-ce qu'un éditeur, il gagne... pas forcément critique, hein, parce que j'imagine que vous imprimez...
Non, nous, on imprime en France, oui, voilà. Mais la question d'imprimer à l'étranger se pose de plus en plus. C'est pas vraiment pour gagner plus sur le livre, c'est comme je disais pour que le point mort soit plus bas. Et c'est-à-dire que souvent jouer sur le prix, au lieu de par exemple qu'il soit 23 euros, qu'il soit 22 euros, et que notre taux où on commence à gagner de l'argent, au lieu d'être à 1200 exemplaires, il soit à 1000 exemplaires. Donc là encore, c'est vraiment l'impression à l'étranger, je pense que c'est vraiment pour répondre au marché qui est désastreux et pas pour gagner de l'argent, hein. En ce moment en tout cas.
Mais est-ce que du coup c'est pas un risque d'entraîner pas un cercle vicieux, mais je veux dire parce que du coup l'imprimeur ça fait aussi partie de la chaîne du livre, donc c'est insoluble.
Oui. C'est comme je dis, chacun essaie de gagner ses petits pourcentages pour essayer de s'en sortir face à la crise actuelle et voilà, il n'y a pas de réponse toute faite à chacun. Je pense que autant les grosses boîtes que les petites, on sent en difficulté en ce moment.
Bon, pour revenir un peu au monde qui nous intéresse et à l'imaginaire, et pour finir un petit peu sur ce sujet, ramenons-nous aux lectures. Est-ce que vous avez un libraire fantasy dans les univers que vous avez lus qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a un libraire imaginaire? Ah oui, Yaka.
Moi, j'ai Aziraphale, l'ange de bon présage de Pratchett et Neil Gaiman, qui est donc un des deux personnages principaux et qui est vraiment pas mal du tout.
Simon,
je sais ce que j'ai fait la chronique sur Albakin, il y a le personnage de Succubus Blues aussi qui est libraire.
C'est vrai, avec ce superbe mug que j'ai toujours chez moi.
Mais moi aussi, moi aussi.
Des goodies, ils ont des goodies en plus.
Des SP, ouais. On les partage pas non plus.
Bon, pour finir, Zed, puisque tu es notre invité, le coup de cœur du mois, est-ce que tu peux nous parler de quelque chose qui t'a particulièrement plu?
J'ai commencé à en faire le lobbying sur le forum là et sur le site, c'est Magie Brute de Larry Correa aux éditions de La Talente. C'est un roman qui soude des airs de série B est vraiment étonnant et frais, vraiment, je trouve. C'est un mélange de références de comics, de fantasy, de fantastique, vraiment un fourre-tout étonnant. Et il y a une plume très efficace, des personnages hauts en couleur, des répliques qui font mouche pratiquement à chaque fois. Voilà, je l'ai commencé pour vraiment me divertir et je l'ai adoré. Enfin, vraiment, pour moi, c'est là, j'en ai pris une grosse pile au magasin et j'ai les premiers retours de lecteurs qui sont très très favorables, pareil, qui me disent on n'avait pas lu ça, quoi. Donc je pense que c'est assez rare pour être signalé.
Bon, et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à lire.
Voilà, donc Magie Brute à La Talente, c'est ça?
À La Talente, tout à fait.
C'est noté.
Merci. Mervin,
peut-être juste avant de conclure, tu pourrais peut-être nous dire l'adresse de critique. Donc, je crois que c'est rue Hoche, c'est ça?
Ouais, 19 rue Hoche. Donc pour la librairie et l'édition, c'est là-bas et un peu chez nous aussi.
D'accord. Donc pour y être passé un petit coup il y a un an, c'est très très sympa. C'est ambiance déjà la rue Hoche, c'est très joli, très un peu pas médiéval, mais il y a un petit côté, voilà, c'est ça. Donc ça ajoute à l'ambiance, toujours très sympa. Et puis, côté critique, édition, il y a quoi qui vient en ce moment?
Alors là, en fantasy, j'en parlais de deux titres. Un qui est paru, il y a eu Les Créateurs de Thomas Géa, qui est un recueil de nouvelles vraiment à la croisée des genres avec un peu de fantasy. Notamment, il y a une nouvelle qui s'appelle Copo, qui à l'origine ne devait pas être dans le recueil. Et quand je l'ai lu, j'ai dit à Thomas, l'auteur, il faut absolument qu'elle soit dedans. Elle m'a serré le ventre, quoi, qui est une nouvelle magnifique. Donc ça, pour ceux qui aiment les choses un peu transgenres, vraiment, c'est quelque chose de très très bien. Et sinon, à la fin de l'année, de Sylvie Miller et de Philippe Ward, on va avoir un roman qui s'appelle Un privé sur le Nil. Et qui raconte un peu, c'est comme si Garrett s'invitait dans le monde d'American Gods. Ça se passe en Égypte et les dieux marchent parmi les hommes. Et en fait, quand un dieu dit l'homme obéit, et ils font des paris, ils sont vraiment.
C'est ma vie.
Non. non, mais voilà, ils se roulent dans des grosses voitures, voilà. Et puis on trouve un petit détective privé qui ressemble à Sam Spade par exemple, ou Philip Marlowe qui se retrouve au beau milieu de ça, qui est un détective de seconde zone. Et pareil, c'est vraiment très pulp et. Il y a le premier tome qui sera donc mi-novembre et le second qui arrive, je crois, en mars prochain. Voilà.
Gilo ?
Oui, et puis je crois qu'on en reparlera d'ailleurs sur Albakin.
Sur Albakin,
un de ces jours.
Oui.
Si tu veux dire que là aussi, tu auras un SP.
Non, je ne parlais pas des SP.
Ouais.
Bon, et ben merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous d'avoir participé. Et puis, on se retrouve bientôt à l'écoute ou sur le forum et sur les pages du site, bien sûr. Au revoir.
Au revoir.
Salut.